RCF. RCF Finistère, une fois pour tous.
Je suis doux et humble de cœur, ou comment Dieu se fait proche? C'est à cette question que nous allons nous arrêter avec le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec, pour regarder justement cette humilité de Dieu, ce Dieu qui cherche à se faire proche de nous. Nous allons regarder en parcourant l'Ancien Testament, notamment l'Exode. Vous avez voulu traiter de cette question, frère Jean-Michel, parce que parfois quand on parle de Dieu, on parle de la violence en fait.
Quand on lit les journaux aujourd'hui, quand on parle en tout cas du phénomène religieux, ça passe souvent au travers des événements violents. On pense les extrémismes religieux qui sont générateurs de... qui provoquent la mort. Donc, en ce sens-là, on peut dire que Dieu est malmené aujourd'hui. Il y a d'un côté ceux qui tuent en son nom, et puis de l'autre, on va trouver aussi des personnes qui considèrent que finalement, les monothéismes sont des sources potentielles de violence. Alors, face à ces deux extrêmes, la révélation biblique, je crois, nous conduit sur un tout autre chemin. En particulier, elle nous fait découvrir le visage de Jésus, dont l'évangéliste saint Matthieu nous dit qu'il était doux et humble de cœur, donc à distance de toute violence.
Alors, il faut dire que cette douceur, cette humilité de Jésus, on les trouve déjà en germe dans l'Ancien Testament.
Oui. Alors, on les trouve déjà en germe dans l'Ancien Testament, et je crois que c'est pas tellement surprenant parce que, comme disait Origène, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Donc, Jésus, il accomplit toutes les figures qui annoncent le Messie, et ces figures dans l'Ancien Testament, elles esquissent cette perception d'un Messie doux et humble. Alors, on peut penser en particulier au chant du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Il y a le grand chant du serviteur souffrant qu'on lit le Vendredi Saint en particulier. Il n'élève pas la voix. Face à la violence, face à la torture. Et puis, on peut penser aussi à la figure de Moïse, dont le livre des Nombres nous dit qu'il fut l'homme le plus doux que la terre ait porté. Donc, c'est intéressant de scruter en particulier cette figure de Moïse, parce que dans l'évangile selon saint Matthieu, où apparaît cette parole de Jésus, « Je suis doux et humble de cœur », dans cet évangile, Jésus, il est d'une certaine manière le nouveau Moïse, celui qui accomplit ce qu'annonçait la figure de Moïse. L'auteur de la Torah, c'est-à-dire que Jésus, il vient accomplir la Torah de Moïse, et donc c'est sans doute pas par hasard que Matthieu met sur la bouche de Jésus ce « je suis doux et humble de cœur », il y a peut-être une évocation de Moïse. Donc on peut commencer par voir dans quelle mesure Moïse, il a été une figure qui annonçait un Messie doux et humble.
Alors justement, on peut dire, si on en reste à Moïse, que Dieu se révèle à lui dans l'humilité du buisson ardent.
Oui, alors la première chose de fait qui est assez intéressante, c'est au chapitre 3 du livre de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il se révèle, comme on va le voir là, comme un Dieu humble, qui rejoint son peuple dans sa détresse. Alors, les deux premiers chapitres du livre de l'Exode racontent l'installation et l'accroissement des fils de Jacob en Égypte. Et puis, on nous dit, dès le premier chapitre, que l'arrivée d'un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph, est lourde de menaces, parce que s'il n'a pas connu Joseph, ça veut dire que, il va pas avoir la même considération pour les descendants des fils de Jacob. Et de fait, ce nouveau pharaon, il a servi les descendants de Jacob en Égypte. On est dans ce moment de la servitude. Et c'est dans ce contexte que naît Moïse, qui, devenu adulte, doit lui-même fuir loin de ce nouveau pharaon parce qu'il a essayé de défendre son peuple au regard de pharaon. Alors, durant toutes ces années de souffrance, synthétisées dans ces deux premiers chapitres de l'Exode, on a comme le sentiment de l'absence de Dieu, parce qu'il n'est jamais question de Dieu dans ces deux premiers chapitres. Alors, donc la question c'est, mais que fait Dieu, hein? Il ne se manifeste jamais, apparemment, alors que son peuple souffre. Hein? Donc je cite là le verset 23 du chapitre 2. « Il arriva au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, donc ce pharaon oppresseur meurt. Les fils d'Israël gémirent du fond de leur servitude et ils crièrent, et leur appel monta vers le Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël et Dieu connut. »
Votre émission Une fois pour tous sur RCF avec le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec, autour du thème « Je suis doux et humble de cœur » ou « Comment Dieu se fait proche ». Alors, nous sommes toujours dans l'Exode et nous regardons le parcours de Moïse et voici que les fils d'Israël se mettent à crier.
Il s'adresse à Dieu, en fait le texte littéralement dit « leur appel monta vers le Dieu ». En hébreu c'est « Ha Elohim ». Le Dieu, on pourrait traduire quelque part vers cette puissance divine qu'ils ne savent pas encore nommer. Et donc dans la nuit de la détresse, eh bien mystérieusement un peuple opprimé crie vers le Dieu, vers la puissance divine. Et donc on pourrait dire que ce cri rend déjà témoignage à une présence aimante qui peut les sauver. Hein. Et ce cri, il monte du fond de la servitude. Hein. Min ha avoda, c'est la servitude. Et ce qui nous rappelle que souvent, eh bien, il faut avoir expérimenté l'épreuve, la détresse, la fragilité, l'impuissance surtout, pour nous tourner vers Dieu sans retenue, sans autre appui, que de s'abandonner entre ses mains. Et quand on regarde la vie spirituelle, souvent les grandes figures de sainteté sont des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont renoncé à compter sur eux-mêmes et se sont abandonnés entre les mains de Dieu pour compter uniquement sur lui. L'humilité, hein, dont Jésus est la figure accomplie, l'humilité commence là, c'est-à-dire dans la rencontre de notre impuissance avec la grâce de Dieu. C'est ce qu'a expérimenté Saint Paul, hein, lorsque Jésus lui dit « Ma force se déploie dans la faiblesse ». Donc, si je ne connais pas ma faiblesse, eh bien, la force de Dieu, un, je ne vais peut-être pas l'invoquer, et deux, elle pourra plus difficilement se manifester en moi.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement, eh bien, il y a là quelque chose du sens profond de la vie chrétienne ?
Ah ben le sens de la vie chrétienne, je crois, oui, de fait, on peut dire ça, parce que être chrétien, eh bien, c'est quoi ? C'est reconnaître, découvrir que nous avons besoin d'être sauvés. Et donc, si nous avons besoin d'être sauvés, eh bien, il nous faut un sauveur, voilà. Et justement, Jésus est celui qui vient nous sauver. Alors, l'expérience d'avoir besoin d'être sauvé, eh bien ça, je crois que c'est dans notre expérience humaine intime qu'on le découvre peu à peu. Hein. Il y a des moments dans l'existence où on sent que seul, on est perdu, on voit pas comment avancer, liées les épreuves qui peuvent être celles de la maladie, le chômage, les difficultés de l'existence, les difficultés relationnelles, peut-être des traits de caractère qui nous sont difficiles. Hein, voilà. Qui va me sauver de la jalousie qui peut m'habiter parfois ? qui va me sauver du ressentiment que j'éprouve à l'égard de telle ou telle personne. Voilà. Là, je peux, quand je sens mon impuissance, là, je peux me tourner vers le Seigneur, vers quelqu'un qui va me dire, pour lui dire, ben, voilà, viens à mon secours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'expérience d'avoir besoin d'être sauvé, qui peut s'exprimer dans ces situations-là. Donc c'est un petit peu ça l'expérience d'Israël à ce moment-là. Et le récit de la rencontre de Moïse avec Dieu à l'Horeb va être ce moment où se révèle, où Dieu va lui révéler son nom, et ce nom qui signifie en fait « je serai avec toi ». Donc on peut peut-être lire ce début du chapitre 3 là. Donc Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il le mena par-delà le désert, et il arriva à la montagne de Dieu, l'Horeb.
Alors, ce qu'il est intéressant de dire là, c'est que si on regarde ce verset, c'est que ça se passe dans le quotidien.
C'est dans le quotidien de sa vie de pasteur, de berger, que Moïse voit surgir l'inattendu de Dieu, la présence de Dieu. Alors, je crois que ça c'est heureux aussi pour nous, parce que cela signifie que c'est dans le réel de nos existences que Dieu nous rejoint. Je crois que c'est important de découvrir, de saisir que la vie spirituelle, ce n'est pas une vie hors sol. Dieu ne se manifeste pas à nous dans les idées, mais dans le réel de notre existence. Donc il y a quelque chose de très pragmatique dans l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, elle ne se vit que dans le réel de notre existence. Hein. Voilà. Dieu nous rejoint là où nous sommes en vérité, hein, pas dans nos illusions. Et donc là, très concrètement, voilà, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et donc voilà, c'est dans son existence de berger que Moïse voit se manifester Dieu à l'Horeb. Bien sûr, dans le texte biblique, qu'un pasteur fasse paître le troupeau, c'est une image forte, hein, puisque l'appel d'un berger à un destin extraordinaire, c'est un motif littéraire que l'on retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Hein. On peut penser à la figure de David. Hein. Le Seigneur prit David au pâturage, derrière les brebis, pour en faire le chef de son peuple Israël. Hein. Deuxième livre de Samuel. Ou encore au prophète Amos, hein, qui dit « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère de prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomore. » Mais le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit « Va, prophétise à mon peuple Israël ». Donc quelque part, symboliquement, Moïse, David, Amos, qui sont des hommes qui s'occupent des troupeaux, eh bien symboliquement, ils sont appelés à être, au nom de Dieu, pasteurs de ce troupeau qui est Israël. Hein. Donc il y a cette révélation aussi que les hommes, c'est le peuple de Dieu et Dieu a appel certains pour les conduire vers lui. Ces textes suggèrent que suivre le troupeau peut être une occupation quelque part dangereuse ou risquée, puisqu'elle peut conduire le berger à la rencontre avec le Seigneur, et donc à un changement de vie radical.
Voilà. Alors c'est intéressant, si on avance dans ce texte, si on y revient, si on le regarde de tout près, de voir aussi cette expression « et il mena le troupeau par-delà le désert ». Alors là, ça dit aussi quelque chose d'intéressant.
Nous sommes dans ce récit qu'on peut dire de vocation de Moïse. Et donc, lorsque le narrateur écrit « Il mena le troupeau par-delà le désert, au-delà du désert », bien, ce verset, il anticipe la grande histoire que raconte finalement le livre de l'Exode. Hein. Moïse, le futur chef d'Israël, rencontre Dieu à l'Horeb, après avoir mené son troupeau à travers le désert, comme plus tard, il conduira le peuple d'Israël à travers le désert pour le conduire jusqu'à la montagne du Sinaï, où il y a cette révélation de Dieu et le don d'étape de la loi, et puis pour le conduire en fait jusqu'à la terre promise. Donc, parce que dans la tradition biblique, en effet, Israël est souvent considéré comme le troupeau du Seigneur. Hein. « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron », dit le psaume 77. Voilà. Et puis donc là, il arrive à la montagne de Dieu, l'Horeb. Alors, cette fois, le lecteur averti, parce que c'est intéressant de prendre conscience que l'auditeur de ce passage du livre de l'Exode, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît sa Bible, hein, qu'il soit juif ou aujourd'hui chrétien. Hein, c'est quelqu'un qui connaît sa Bible. Et donc, il sait que l'Horeb, eh bien, c'est une montagne, c'est un lieu où Dieu s'est déjà révélé. Et donc, le lecteur averti, en particulier, peut penser à ce récit de la rencontre de Élie avec le Seigneur qu'on lit au premier livre des Rois. Élie après avoir massacré plus de 400 prêtres de Baal, fuyait Jézabel, qu'il lui avait promis qu'elle le mettrait à mort. Moïse, lui, après avoir tué un Égyptien, avait fui Pharaon et vivait en exil. Donc on voit un peu un parallèle entre ces deux parcours. Dans l'un et l'autre récit, qui ont de nombreux points communs, Dieu se manifeste à des hommes qui ont une histoire, on peut dire humainement, assez lourde. Une histoire où ils ont voulu faire justice à la place de Dieu et une histoire qui s'est mal terminée. Pour l'un, c'est l'exil. Pour l'autre, c'est le découragement. Élie dit « Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères ». Donc je crois qu'il est bon pour nous aujourd'hui de prendre conscience que deux des plus grands prophètes de la Bible ont connu l'échec, ont éprouvé donc leurs limites et leur incapacité. Et du coup, on peut dire que la rencontre de Dieu ne peut se faire dans l'illusion de notre puissance, elle ne peut se vivre que dans l'humilité qui naît de la conscience de notre pauvreté, de notre faiblesse. Et si, comme on va le voir, Moïse peut être réceptif à l'appel de Dieu pour libérer son peuple et devenir un instrument de choix, c'est peut-être parce qu'il a d'abord connu l'humiliation de l'échec dans sa tentative d'affranchir par lui-même ses frères du joug égyptien. Dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'il n'en va pas différemment pour l'apôtre Pierre, qui se trouve confirmé dans son rôle de pasteur après avoir connu l'humiliation du reniement. Voilà, il faut ne plus avoir compté que sur Dieu pour devenir digne de le servir. La triple question de Jésus à Pierre, « M'aimes-tu hein, sur le bord du lac après la résurrection ?» finalement, elle révèle cela. Pierre va pouvoir devenir le premier des apôtres à partir du moment où il aura éprouvé dans sa chair le pardon de Jésus. S'il n'avait pas éprouvé cette expérience-là, il ne pourrait pas être témoin de Dieu, d'un Dieu sauveur, parce que Pierre lui-même, il a éprouvé dans sa chair le fait d'être sauvé. Le regard de Jésus qui lui dit « Pierre, m'aimes-tu ?», qui lui redonne confiance, eh bien, le sauve, lui redonne une chance. Et c'est ça, c'est en cela que Dieu se révèle sauveur. Donc, j'aime bien ce verset, c'est pas un verset en fait, c'est un vers tout court de notre frère Gilles qui est poète. Lorsqu'il dit « Nous portons en nous de l'inguéri hein, ». Voilà, « Nous portons en nous de l'inguéri ». Donc cela signifie, cette connaissance de soi dans sa faiblesse ouvre le chemin de la grâce. C'est parce que nous avons conscience de porter en nous quelque chose qui est inguéri que nous pouvons nous tourner vers le bon médecin, qui est le Christ.
Sur RCF, la suite de votre émission « Une fois pour tous » avec le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec. Alors si on avance dans le texte, on va voir maintenant, on est au verset 2, « L'ange de Yahvé se fit voir à lui dans une flamme de feu au milieu du buisson ». Alors qu'est-ce que le narrateur veut nous faire comprendre de l'expérience spirituelle de Moïse ?
Alors donc, il y a cette image-là qui est impressionnante. Le Seigneur se manifeste à Moïse dans une flamme de buisson, au milieu d'un buisson qui ne se consume pas. Et alors le texte même précisément dit « Et il vit, et Moïse vit, de point ouvrez les guillemets, le buisson est brûlé par le feu mais le buisson ne se consume pas. Donc le narrateur qui écrit ce récit fait partager au lecteur l'expérience spirituelle de Moïse. Et il la lui fait découvrir à partir du regard de Moïse lui-même. C'est une manière subtile d'indiquer déjà le statut de médiateur de Moïse. C'est par l'intermédiaire de Moïse, de sa Torah, que le lecteur, que l'Israélite croyant, pourra accéder à Dieu. Voilà. Alors, le terme « buisson ardent » qui est utilisé, le mot « buisson », c'est un mot très rare qu'on retrouve, je crois, que deux fois dans la Bible, « assenet », »,« senet », le terme « senet », qu'on peut traduire par « buisson », est un vocable qui, par assonance, fait penser au mont Sinaï, le Sinaï, senet, Sinaï. Donc, on sait bien que le Sinaï, c'est le lieu où Dieu donne l'étape de la loi pour Israël, le décalogue. Et donc, le narrateur, en traduisant buisson, en utilisant le mot senet pour dire buisson, eh bien, évoque peut-être cette expérience du Sinaï et donc prépare la rencontre ou anticipe la rencontre de Dieu avec Moïse et le peuple au Sinaï, où de fait on apprend que Dieu parle du milieu du feu. Alors le buisson, lui, hein, c'est un arbuste qui pousse en milieu aride, dans un désert, puisqu'on est au désert là. Et donc c'est peut-être là une image symbolique de la capacité de Dieu à susciter la vie là où normalement c'est la mort qui règne. Et ce buisson en flamme, eh bien, pour l'Israélite croyant qui fréquente le temple, il évoque aussi la torche du candélabre, c'est-à-dire la menorah du temple. Et le prophète Zacharie, au chapitre 4, dans sa vision, il parle du chandelier pourvu de deux réservoirs qui ne s'éteignent jamais. C'est donc la menorah du temple, c'est un feu qui est perpétuel. Et donc, symboliquement, il représente une perpétuelle théophanie, c'est-à-dire la présence continuelle de Dieu auprès de son peuple. Et donc, c'est bien le sens de la révélation du buisson ardent.
Est-ce qu'on peut parler finalement d'un message d'espoir ?
Alors, oui, c'est un message d'espoir, puisque cette présence de Dieu au buisson ardent révèle que le Seigneur, dont on n'entendait plus parler dans les chapitres précédents, eh bien, il demeure près de son peuple dans son expérience de souffrance et de servitude. En même temps, dans cette manifestation de sa présence, eh bien, Dieu se révèle humble pour rejoindre son peuple humilié. Et la tradition rabbinique sera sensible à cette manière humble qu'a Dieu de se manifester à Moïse dans ce buisson ardent, puisque ainsi Rashi de Troyes, en Champagne, commente à propos de ce passage, « Du milieu du buisson, et non pas d'un autre arbre plus élevé, conformément au psaume 91, verset 15, « Je suis avec lui dans la détresse », autrement dit, dans l'humiliation. Donc, selon Rashi, Dieu a choisi le buisson, le moins élevé des arbres, comme lieu de sa révélation, montrant par là qu'il est avec les Hébreux dans leur état d'humiliation. Il les rejoint dans leur détresse, il se met à leur niveau. Et la suite du récit, d'ailleurs, en particulier ces 40 années de pérégrination dans le désert, eh bien, va montrer que Adonai, le Dieu qui se révèle à Moïse ici, eh bien, guide et accompagne son peuple à travers les péripéties du désert. La tente de la rencontre, qui se déplace au gré des étapes, montre qu'il partage sa précarité pour le conduire vers la terre promise, et ce qui lui permet de vivre là où normalement c'est la mort qui triomphe, mais d'accompagner son peuple à travers ces étapes. Il est significatif que dans le prologue de Saint Jean, dit ceci, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous littéralement. On dit il a habité parmi nous, mais littéralement c'est « et il a planté sa tente parmi nous ». Donc c'est une évocation du Dieu de l'Exode qui accompagne son peuple à travers les pérégrinations du désert dans la tente de la rencontre. Et il y a même d'ailleurs plus tard, au temps de Salomon et de David, une polémique, puisque le roi veut construire un temple magnifique pour Dieu, et le prophète lui fait dire « mais moi j'ai pas besoin de temple, le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu qui reste fixé dans des bâtiments en pierre et en dur, il est un Dieu qui accompagne son peuple dans son existence, là où il est, humblement ».